Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Elle incarnait l'unité d'un peuple et elle symbolisait la mémoire d'une nation. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. Elle est quasiment unique avec vous, Céline Landreau. La reine est morte.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et ce sont désormais ses premiers mots en tant que roi qui sont attendus. Ceux de Charles III qui doit s'adresser aux Britanniques cet après-midi au lendemain donc de la mort de sa mère, la reine Elisabeth II, qui a ému le monde entier. Emmanuel Macron a salué une amie de la France, le président de la République, qui est attendu dans les prochaines minutes à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris pour y présenter ses condoléances. La reine, icône de la pop culture, star du cinéma et de la télévision aussi. On y revient évidemment dans LVT Midi, ce sera à partir de 12h 50. L'autre titre de l'actualité, ce sont évidemment ces violents affrontements hier entre supporters dans le stade de Nice. Près de 40 blessés à déplorer. On y reviendra longuement à 12h20 avec notre journaliste Mickaël Lefebvre qui était dans le stade. La question du jour sur RTL.fr. Royaume-Uni, Charles III sera-t-il, selon vous, un grand roi?
Et bien sûr, vous pourrez prendre la parole à partir de 13h avec là aussi un thème unique, sans doute le décès de la reine d'Angleterre et l'arrivée au trône de Charles III.
Avant ça, la météo avec vous, Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Alors encore des averses, hein, entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le Grand Est, ce sera mitigé comme hier pour les autres, et soleil près de la Méditerranée.
Merci Céline, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Et on prend tout de suite donc la direction de Balmoral en Écosse où la reine s'est éteinte hier au milieu de ses proches et du désormais Charles III. Le roi, Julien Fautras, bonjour, qui s'apprête d'ailleurs à quitter Balmoral pour aller remplir ses obligations royales à Londres.
Bonjour Céline, oui, la voiture du nouveau roi Charles III doit passer les grilles noires de Balmoral devant moi d'un instant à l'autre, c'est ce qui est prévu. Il doit laisser la famille se rendre à Londres pour premier acte de son règne, s'occuper des funérailles de sa mère. Il verra alors les dizaines de bouquets de fleurs qui sont déposés depuis hier sur les murs du domaine, notamment celui de Riley, 37 ans.
Nous vivons environ une demi-heure d'ici. Nous sommes assez émus. Elle a été une constante dans nos vies. Je suis triste qu'elle soit partie. Nous sommes ici pour présenter nos condoléances à la famille royale, pour lui rendre hommage. Nous sommes ici pour lui dire merci et à la famille royale, prenez soin de vous.
Ce midi, Balmoral a perdu sa quiétude des médias du monde entier et les admirateurs de la famille royale qui, par dizaines désormais, viennent rendre hommage à la reine Elisabeth II.
Julien Fautras à Balmoral en Écosse pour RTL.
Forte émotion évidemment aussi à Londres où la foule se recueille devant Buckingham Palace, Londres qui attend désormais le roi.
Charles III doit effectivement maintenant rencontrer le cabinet et la première ministre Liz Truss, Marie Billon.
Oui absolument, c'est ce qui est prévu. En début d'après-midi, lorsqu'il atterrira à Londres, il doit en ce moment se quitter Balmoral pour... prendre un jet privé qui l'amènera à Londres. Il sera accueilli par la première ministre et c'est à ce moment-là qu'on devra avoir les détails sur les prochains jours, le protocole exact qui mènera jusqu'aux funérailles de la reine. C'est quelque chose qu'il verra avec la première ministre, mais aussi avec le comte Marshall, qui est aussi le comte de Norfolk, qui est celui qui est en charge des organisations funéraires pour la famille royale. Et puis, le roi Charles III doit aussi, c'est un moment important, adresser son premier message à la nation. Ce sera en fin de journée, a priori à l'heure du 20h en France. Quelques minutes, un peu une profession de foi pour le prince Charles.
Merci beaucoup Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. On a compris, c'est une période de deuil national qui s'ouvre. Manifestations culturelles et sportives annulées, grands magasins qui gardent portes closes. La vie en partie suspendue donc depuis hier dans le Royaume.
Et du monde entier, les réactions continuent d'affluer.
À l'instant, l'empereur du Japon salue les nombreuses réalisations et contributions d'Elisabeth II. À Paris, le drapeau de l'Élysée lui est mis en berne et Emmanuel Macron est attendu à l'ambassade du Royaume-Uni pour y signer le registre de condoléances, Valentin Boisset.
Absolument, il devrait arriver d'une minute à l'autre maintenant. Ce n'est pas très loin de chez lui, hein, puisque l'ambassade du Royaume-Uni est littéralement dans la rue du palais de l'Élysée. Il va donc venir à pied à l'intérieur. L'ambassadrice, elle, l'attend actuellement sur le perron. À l'intérieur, on a disposé un petit livret sur une table bleue face à un portrait d'Elisabeth II. Il s'agit en fait d'un livre d'or dans lequel Emmanuel Macron va écrire ses condoléances aux Britanniques. Il va également déposer une rose devant ce portrait. Le président, qui a déjà hier rendu hommage à la reine en anglais sur Twitter, il parlait alors d'une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle.
Valentin Boisset pour RTL. Vladimir Poutine, lui, a fait savoir il y a quelques minutes qu'il ne prévoyait pas d'assister aux funérailles d'Elisabeth II. Déclaration alors que ses troupes semblent en difficulté face à la contre-offensive menée par Kiev en Ukraine. L'armée ukrainienne assure avoir percé les défenses russes sur 50 km dans la région de Kharkiv au nord-est du pays. Dans le même temps, les Européens vont tenter de se mettre d'accord aujourd'hui sur une série de mesures d'urgence pour contenir la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Conséquence directe, évidemment, du conflit avec la Russie.
Il y en a marre que notre sport soit sali. La réaction de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra après les incidents hier soir à Nice.
Oui, juste avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue Europe, c'est du football entre les Aiglons et Cologne, des incidents ont éclaté dans les tribunes du stade niçois. Alice Moreno, un vrai déchaînement de violence. Hein.
Oui, des images très impressionnantes. Une heure avant le coup d'envoi, plusieurs centaines de supporters cagoulés aux couleurs du club de Cologne ont envahi la tribune présidentielle pour aller en découdre avec les supporters niçois. Certains se sont armés de chaises ou de barres de fer arrachées au stade. Des fumigènes, des objets incendiaires ont volé entre les tribunes. Un homme fortement alcoolisé a aussi chuté de 5 mètres de haut. Au total, 30 blessés parmi les supporters, 9 parmi les forces de l'ordre. À cette heure, les autorités n'ont pas communiqué sur de potentielles interpellations.
Merci beaucoup Alice Moreno. On y revient longuement à midi 20 avec notamment Mickaël Lefebvre, notre journaliste qui était dans le stade hier soir. La météo à présent. On retrouve Céline D'Acosta pour un après-midi
mitigé,
c'est moyen.
Ça, oui. Déjà, première info, c'est que le Pas-de-Calais n'est plus en vigilance orange. La vigilance vient de sauter à l'instant, mais le ciel reste quand même perturbé cet après-midi sur le nord du pays, avec des averses parfois orageuses entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le Grand Est. Pour les autres, on a toujours ce ciel mitigé, hein, partagé entre nuages éclaircis et averses ponctuelles, le tout accompagné d'un vent bien frais. Vent d'ouest qui va pousser les nuages sur la façade atlantique, et là, le soleil va revenir assez largement. Pour avoir un franc soleil, en revanche, il faut aller près de la Méditerranée. Année, il sera bien généreux, avec un vent bien présent également. Côté température, ça baisse encore un peu sur la moitié nord, 19 à 23 degrés, surtout sous la pluie hein, dans le nord-est, 22 à 27 pour la moitié sud, jusqu'à 32 encore près de la Méditerranée.
Merci Céline.
RTL Midi, un jour chez vous.
Effectivement, RTL Midi, un jour chez vous, et aujourd'hui, direction la Bretagne.
À la rencontre, oui, du seul Penbagat de Lanbiway à avoir rencontré Elisabeth II. Bonjour Philippe Renard.
Bonjour.
Je le disais, vous avez été le Penbagat de Lanbiway. Alors, Penbagat, c'est le directeur hein, de ce qu'on pourrait appeler l'orchestre de la Marine nationale. Arrêtez-moi évidemment si je me trompe. Et donc, en 2011, vous avez été invité à jouer pour la reine.
Oui, exactement. Nous avions été invités avec le Bagat à participer à un festival de musique militaire qu'on appelle un tatou, donc le Windsor Castle Royal Tatou, qui avait lieu dans le parc du château de Windsor. Et à cette occasion, voilà, on a eu l'occasion de jouer devant la reine, et puis surtout, j'ai eu personnellement l'honneur de la rencontrer, de lui parler, et pour moi évidemment c'était un moment tout à fait exceptionnel.
C'est-à-dire, c'était en 2011, quel souvenir précis vous gardez?
Bah écoutez, quand vous êtes devant cette personne qui pour moi représentait toute mon histoire, hein, voilà, je suis né dans les années 60, c'était l'histoire du monde. Quand elle m'a tendu sa main, je me suis dit que son premier ministre, c'était Winston Churchill. Mm-hmm. Elle avait connu tous nos présidents de la République. Je n'imaginais même pas que ça puisse m'arriver. Et puis,
mais qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Alors, elle m'a demandé qui on était, d'où on venait, ce qu'on faisait exactement. J'ai trouvé qu'elle s'était vraiment mise à mon niveau. En plus, elle parlait parfaitement bien le français. Et donc toutes les questions qu'elle m'a posées, c'était en français, voilà, avec cette voix si particulière, ce regard perçant. Et vraiment pour moi, voilà, c'est un moment que je ne peux oublier. Et hier, ouais, évidemment, quand j'ai appris son décès, voilà, je suis profondément touché.
Merci beaucoup Philippe Renard d'avoir témoigné ce midi sur RTL. On imagine effectivement que tout ça remue beaucoup de souvenirs.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Évidemment, aujourd'hui, c'est la reine d'Angleterre. Si vous savez, si vous pensez tout savoir sur elle, peut-être vous trompez-vous. On va écouter Sophie Orange dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Vous pensez avoir tout entendu depuis hier soir sur la reine Elisabeth II, mais Sophie Orange, vous vous êtes lancée pour RTL. Un défi, nous en apprendre plus, ce que l'on ne sait pas encore sur la reine qui nous a quittés hier. D'abord, la vie de la reine, elle est indissociable de celle de son mari, ouais. Philippe, le seul amour de sa vie qu'elle a rencontré très jeune.
Oui, parce que la reine avait 13 ans. Et le Philippe, 18 ans, c'est vrai que c'était une autre époque, on était en juin 1939. Philippe était censé s'occuper d'Elisabeth et de sa sœur Margaret au moment où leur père visitait une base navale. Il y avait bien sûr la gouvernante qui était à côté. Et là, Elisabeth tombe sous le charme de ce grand échalas assez mince. Et Philippe en rajoute un peu. L'histoire raconte qu'il s'est mis à jouer au tennis en sautant comme un cabri. Et la reine s'extasie. Oh, mais comme il saute haut. voilà, les deux futurs amoureux s'écrivent pendant des mois parce que Philippe aussi à apprécier le regard perçant de cette, j'allais dire, de cette adolescente, hein, puisqu'à 13 ans, on est quand même encore une adolescente. Sauf que le pédigré de Philippe n'est pas idéal, hein, sa famille est en exil, complètement désargentée. Il finit par être invité au château de Windsor en 1941, et puis après, Elisabeth devra convaincre surtout son père, parce que sa mère, elle était convaincue, mais convaincre son père que Philippe était le candidat idéal. Il se fiance en 1947, se marie en novembre 47, on connaît la fin de l'histoire, 74 ans de mariage.
Hein. Mais Sophie, une vie de couple, même royale, ça passe, comme chez tout le monde, par quelques disputes.
Oui, ils sont humains, il reste des humains. Notamment cette dispute de 1954. Alors, on connaît l'histoire parce que la télé australienne suivait le couple pour un tournage et soudain, à la porte du cottage dans lequel était le couple s'ouvre. Alors, on voit le prince Philippe qui sort en furie. Enfin, on raconte que le prince Philippe sort en furie, puis on voit passer une raquette de tennis, une paire de chaussures, la reine qui intime l'ordre à son mari de rentrer à la maison. La porte claque, sauf qu'on ne verra jamais les images parce que la télé australienne a remis le film à Buckingham.
Sophie, on parle beaucoup des chapeaux de la reine, mais il y a aussi ce sac à main qu'elle ne quittait pas. Et encore mardi, sur la dernière photo d'elle avec Alice Truss, il y avait quoi de si important dans ce sac?
Alors ce jour-là, je ne suis pas la petite souris qui a préparé son sac, mais en général, les spécialistes de la royauté vous expliquent que, bon, déjà, elle n'avait pas d'argent dans son sac, parce que ce sont ses propres billets, hein, puisque c'est elle qui est...
Oui.
Voilà, donc ça fait un peu bizarre d'avoir
des photos
ses propres
de soi
dans sa poche, exactement. Elle payait quand même, hein, on payait avant ou après, mais en tout cas, c'était pas elle qui sortait ses billets. Une paire de lunettes, un beau stylo de marque Parker, un mouchoir en tissu, pas de mouchoir jetable, un bâton de rouge à lèvres et paraît-il une petite pastille à la menthe. Et un encas. Alors, est-ce que c'est un toast à la marmelade comme on a vu dans le petit clip avec Paddington? Je ne sais pas.
Mais ce sac, paraît-il, servait aussi de code. Il pouvait changer de bras en fonction de ce qu'elle voulait. Si elle voulait, par exemple, arrêter l'entretien, ben, le sac était à droite et passait à gauche. J'ai lu ça ces dernières heures. Je me méfie évidemment de tout cela.
Non, mais ce sont des belles histoires qui forment un peu la légende aussi. C'est vrai que sur cette dernière photo, elle avait un sac à main à l'intérieur devant un feu de cheminée. Parce que c'est bien utile d'avoir un sac à main. On a l'impression qu'il était accroché à sa vie, quoi. Elle-même s'accrochait à son sac à main.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de passeport ni de permis.
Non, non, non. C'est la seule citoyenne britannique, parce qu'en fait, toujours la même chose. Hein, le passeport était mis en son nom. Voilà, il porte ses armes. Donc, pas de passeport pour la reine, pas de permis non plus. Alors, certains, la légende dit qu'elle conduisait un petit peu vite, notamment à Balmoral. Et bon, ça aurait peut-être été bien qu'elle passe le permis. Mais en revanche, elle a été mécanicienne pendant la guerre. Donc sans doute, au moment des voitures non électroniques, peut-être aurait-elle pu changer une roue ou trafiquer le moteur.
Tout le monde sait qu'elle avait une passion pour les chevaux. Est-ce qu'on sait comment est née cette passion qui a perduré jusqu'à 3-4 ans?
Passion familiale. Et dès ses 4 ans, son grand-père lui a offert son premier poney. Et dès ses 6 ans, elle sait monter seule. Alors ça devient une passion, voire une obsession même. Elle achète des chevaux, elle vient en France, elle crée des couples, elle achète des étalons, voilà, qui gagnaient des courses en France pour elle-même gagner ses propres courses. Et ceux qui partagent un peu son intimité racontent que... D'ailleurs, on voit des photos où quand elle voit ses chevaux en course, elle est complètement déchaînée, quoi. Elle se met.
Il y a une photo célèbre, une image célèbre, une séquence qu'on a vue hier.
Comme une enfant presque, voilà, complètement enthousiaste.
On l'a tous vue hier.
Et elle a transmis cette passion à certains de ses petits enfants, notamment Zara, la fille de la princesse Anne, qui est médaillée olympique en 2012. Et puis elle a appris aussi à monter aux enfants d'Edouard et Sophie, les petits derniers.
Et au-delà des chevaux, on lui a offert aussi beaucoup d'autres animaux.
Oui. Alors, par exemple, le président du Cameroun lui a offert un éléphant. C'était en 72, qui est arrivé en avion. Elle a reçu aussi des tortues, des jaguars du Brésil, un crocodile, des hippopotames pygmées, des kangourous, des cacatoès.
Alors, on ne sait pas où elle a mis l'éléphant, parce qu'un éléphant à Balmoral, ça. C'est...
Alors, a priori, les animaux, sauf certains, mais sont dans la majorité, en tout cas, allés au zoo de Londres. Et puis les chevaux, bien sûr, et puis les corgis, ces chiens, on en a eu des dizaines tout au long de sa vie.
Puis on ne peut pas ne pas souligner le sens de l'humour légendaire de la reine.
Alors ça, c'est vrai que c'est connu, mais on ne résiste pas à cette anecdote racontée par un officier de sécurité il y a quelques semaines sur les chaînes anglaises. Voilà, il était avec la reine, il faisait une marche à Balmoral et puis il croise des touristes américains qui visiblement ne reconnaissent pas la reine. Et l'officier de sécurité raconte la suite.
Alors il était clair que ces deux Américains n'avaient pas reconnu la reine. Et il lui demande, vous vivez ici? Elle dit, non, j'habite à Londres, mais je suis en vacances ici depuis au moins 80 ans. Alors si vous venez depuis 80 ans, vous devez connaître la reine, demande le touriste. Et là, du tac au tac, elle dit, non, moi je ne le connais pas, mais monsieur, oui, connaît la reine. Et à ce moment-là, le touriste américain me prend par le bras et il demande à la reine de nous prendre en photo. Il prend la reine en photo. Et quand il est parti, la reine m'a chuchoté. J'aimerais être une petite souris quand ils montreront leurs photos à leurs copains et que l'un d'eux va dire, mais c'est la reine.
C'est génial.
Ça, c'est génial.
Merci beaucoup, Sophie Orange. Et si vous voulez en apprendre encore plus, c'est possible. Vous retrouverez le podcast RTL consacré à Elisabeth II en partenariat avec le magazine Point de Vue sur toutes vos plateformes.
Dans un instant, tout autre chose. Retour sur les incidents qui ont marqué la rencontre de foot entre Nice et Cologne hier soir. 39 blessés, 3 personnes hospitalisées. Mais comment expliquer une telle violence? On en parle évidemment tout de suite. Et s'il n'y avait pas eu le décès de la reine, ce serait peut-être l'information numéro 1 qui serait développée sur toutes les chaîne info et dans toutes les radios ce matin.
RTL pour tout comprendre de l'actualité.
RTL midi,
votre vie.
Des images d'une rare violence à l'Allianz Riviera de Nice et un bilan lourd, près de 40 blessés après de violents affrontements dans les travées du stade entre les supporters de Cologne et de Nice. Pour en parler avec nous, Mickaël Lefebvre, correspondant pour RTL à Nice, et Nicolas Georgerot, journaliste au service des sports d'RTL. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, Mickaël, vous étiez au stade hier soir pour RTL. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Trois quarts d'heure avant le coup d'envoi théorique de cette rencontre, une cinquantaine de supporters venant de la tribune de Cologne, où s'étaient déjà massés quasiment 8000 spectateurs, 8000 supporters de Cologne, ont quitté cette tribune, ont enjambé des petites barrières à l'intérieur des tribunes, ont passé la tribune présidentielle pour aller se frotter aux supporters, aux ultra-niçois qui venaient à peine, eux, de rentrer dans leur tribune. Ils n'étaient pas encore nombreux. Ils ont, dans un premier temps, été retenus par les stadiers. Puis, ils sont arrivés au contact de ces supporters ou pseudo-supporters hooligans allemands, on va les appeler comme ça pour le moment. Ça a duré un long moment avant que les forces de l'ordre n'interviennent efficacement et arrivent à repousser d'un côté les supporters allemands et de l'autre côté les supporters niçois. Mais il faut bien préciser qu'à la base, ce sont bien les supporters allemands aidés par des hooligans parisiens. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Nicolas nous en dira plus. Mais en tous les cas, il faut bien préciser que ce sont eux qui ont déclenché les violents incidents hier de l'Alliance Riviera.
Et c'est ce changement de place des supporters qui pose problème. Comment est-ce possible pour des hooligans, d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des supporters, de traverser le stade aussi simplement pour aller au contact de supporters adverses, en l'occurrence les Niçois?
Tout simplement parce que, Pascal, normalement, dans le stade, vous savez, c'est un vilain mot, on appelle ça un parquage de supporters, où en théorie, aller à l'Alliance Riviera, il y a 1750 places qui leur sont réservées, où c'est très protégé, il y a des plexiglas entre les tribunes, des filets autour. Mais là, pour ce match-là, il y a donc 8000 supporters de Cologne qui sont venus assister à la rencontre, et donc l'OGC Nice et les autorités préfectorales avaient décidé de leur réserver toute une tribune entière derrière les buts, tout un virage, pour les placer à cet endroit-là. Sauf que ce virage, il est beaucoup moins sécurisé sur sa partie droite, donc vers la partie présidentielle. Et c'est comme cela qu'ils ont pu franchir les barrières.
Donc ça n'avait pas été pensé que les supporters de Cologne puissent être extrêmement violents et qu'ils puissent en découdre, avec en plus une information intéressante que vous donnez, des supporters parisiens.
Si des hooligans parisiens,
des ultra-parisiens, voilà, qui se seraient mêlés à cela.
Oui, c'est cela. Ça a été clairement établi par la préfecture des Alpes-Maritimes. Il y a une image forte où l'on voit un homme tomber d'une tribune, de faire une chute de 5 mètres. Il a été établi que c'était un hooligan parisien. Une autre personne qui a été poignardée, mais dont les jours ne sont pas en danger, des plaies superficielles, c'est aussi établi que c'est un hooligan parisien. Ils savaient, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis de cordon de sécurité suffisamment performant, par exemple un grand cordon de CRS ou un double cordon de stadier pour séparer les deux tribunes.
Alors, ces supporters parisiens, Nicolas, d'ailleurs, je dis supporters, je devrais dire ultra ou hooligan.
Hooligan, on peut aller, oui, parce qu'en fait, les Supras d'Auteuil, c'est une association de groupes de supporters qui était née en 1991, mais qui a été dissoute en 2010 avec le plan Le Prou suite aux violences qu'il y avait à l'époque entre le virage Boulogne et le virage Auteuil, donc cette guerre intestine au Paris Saint-Germain. Et ben là, on a un cas d'école avec ces hooligans, ces indépendants qui sont aujourd'hui en marge de tout ça, qui sont 20, 30, 40 et qui sont difficiles à noyauter. Alors, le Paris Saint-Germain d'ailleurs a fait un communiqué et le fait très rarement, mais pour rappeler qu'il n'était pas reconnu comme supporter du Paris Saint-Germain. Et le club d'ailleurs, par rapport à la réputation, va peut-être engager des poursuites pour ces atteintes. Alors, il y a des liens avec Cologne parce que depuis une vingtaine d'années, depuis 2003, il y a eu des liens entre des ultras de Cologne et puis des indépendants du virage du Auteuil et donc de cette association des Supras d'Auteuil. Et par exemple, en 2016, sur un match de Coupe d'Allemagne, alors que les Supras d'Auteuil auraient dû fêter leurs 25 ans, et ben, dans un match de Coupe d'Allemagne, les supporters de Cologne avaient déployé une banderole pour rappeler leur lien avec les Supras.
C'est la grande fraternelle de certaines associations d'ultras en Europe.
D'ultra et de hooligan, par exemple, j'ai souvenir en 2007 d'un Sedan Paris Saint-Germain qui avait très très mal tourné avec de très violents incidents à du Gauguez. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une centaine de supporters de hooligans néerlandais d'Utrecht qui étaient venus. Pourquoi comme ça, là tout d'un coup, Utrecht, Sedan, Paris Saint-Germain,
oui, ça paraît
tout simplement
pas évident.
Parce qu'il y a un joueur qui s'appelait David Di Tommaso qui était décédé, qui était un ancien joueur de Sedan, qui était aussi un joueur d'Utrecht, et ça avait favorisé les liens entre les supporters des deux clubs. Donc des fois, ça peut être pour des orientations politiques, sur d'autres éléments.
Michael, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y aurait pas d'interpellation.
Ben non, pour le moment.
C'est ça qui est sidérant.
Alors, on vient de recevoir un communiqué de presse de la part du parquet de Nice. Il y a 3 enquêtes ouvertes. Dégradation en réunion sur la boutique officielle de l'OGC Nice, violence en réunion aux abords du stade et violence en réunion au sein de l'enceinte sportive, introduction et jet de fumigène et dégradation en réunion commise à l'intérieur de l'Alliance Riviera. Ces enquêtes ont toutes été confiées à la Sûreté départementale de Nice. Elles ont pour but d'identifier et d'interpeller les auteurs de ces infractions.
Mais pourquoi n'ont-ils pas été interpellés hier soir sur le fait, puisqu'il y avait des policiers dans le stade?
Surtout qu'il y a des blessés.
Donc, c'est dans les rangs des policiers.
Dans les rangs des policiers,
donc, c'est quand
et
même
dans les
très,
rangs
très étonnant. Donc tous ces gens ont pu rester dans le stade, regarder le match tranquillement, sans interpellation.
Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas quoi vous répondre à cela, mon cher Pascal. Alors qu'il est, nous n'avons pas connaissance d'interpellation sur le match d'hier soir.
Et rassurez-vous, on ne vous tient pas pour responsable, Mickaël.
Bien évidemment. Bon, il y a eu un match quand même.
Oui, il y a un but partout.
Bon, merci Mickaël Lefebvre de toutes ces explications. Merci à Nicolas Georgerot. C'est un peu compliqué pour ceux qui nous expliquent, qui ne comprennent pas les passerelles qui peuvent exister entre des hooligans de Cologne et des hooligans du Paris Saint-Germain. Merci, c'était RTL Midi Votre Ville. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30. Nous serons à Balmoral avec le départ de Charles III, désormais, puisque c'est comme cela qu'il faut l'appeler.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée, Céline, dominée par un seul titre, le décès de la reine d'Angleterre.
Et les premiers mots du nouveau roi Charles III attendu dans un peu plus de 6 heures maintenant. Charles III qui a quitté Balmoral il y a quelques minutes et qui doit donc s'adresser à ses sujets lors d'un message télévisé. Sa mort nous laisse un vide, a réagi Emmanuel Macron, lui, dans une vidéo, alors que les Britanniques se relaient depuis hier soir devant Buckingham Palace à Londres pour rendre hommage à leur reine défunte. Près d'une quarantaine de blessés hier au stade de Nice, la rencontre de Coupe d'Europe face à Cologne a été marquée par de violents affrontements entre supporters. À 12h50, votre rendez-vous culture, LVT midi. Et aujourd'hui, évidemment, il sera question de la reine star de la télévision et du cinéma. La question du jour sur RTL.fr, Charles III sera-t-il, selon vous, un grand roi ?
On en parlera évidemment à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole, 32-10 pour dialoguer et témoigner jusqu'à 14h30.
La météo à la fin du journal, ce sera avec vous, Céline Dacosta. Mais un après-midi déjà qui s'annonce mitigé. Hein.
Oui, encore des averses sur le nord et le Grand Est. Ciel variable pour les autres, des éclaircies sur la façade atlantique et grand soleil près de la Méditerranée.
Merci Céline, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Ces premiers mots très attendus seront scrutés. Charles III doit s'adresser en fin d'après-midi à 19h heure française, d'après les médias britanniques, à ces sujets. Le nouveau roi qui a veillé sa mère, la reine Elisabeth II, toute la nuit. Il vient de quitter Balmoral en Écosse où vous vous trouvez, Julien Fautra, avec donc Camilla, la désormais reine consort.
Oui, la voiture de Charles et Camilla a en effet quitté Balmoral, mais par une grille discrète, pas par les grilles noires et dorées devant moi. Le nouveau Charles III se rend à Londres pour régler les détails des obsèques de sa mère Elisabeth II. Mais il l'a fait discrètement, sans photographe, sans attroupement. Il n'a donc pas non plus longé devant une quarantaine d'admirateurs de la famille royale qui l'attendaient. Longé, les bouquets de fleurs déposés depuis hier, les bougies allumées en l'honneur de la reine défunte, quelques larmes ici, quelques mines tristes et quelques kilts écossais aussi. Ils sont de plus en plus nombreux, profitant d'une éclaircie à venir rendre hommage à Elisabeth II. Le cercueil de la reine serait dans la salle de bal de Balmoral, drapé dans un étendard royal, raconte la presse britannique, ce salon où elle a dansé avec Philippe, son mari. Charles a laissé donc le reste de la famille ici veiller le cercueil. Lui se rend à Londres prendre la succession de sa mère.
Merci Julien Fautra en direct de Balmoral en Écosse pour RTL. Bonjour Pauline Sommelet.
Bonjour.
Vous travaillez au magazine Point de vue et vous nous accompagnez pour tout comprendre de ce qui se joue actuellement au Royaume-Uni. Julien Fautra nous le disait à l'instant, la dépouille d'Elisabeth II est restée à Balmoral. C'est pas anodin, Balmoral c'est un lieu qui était très cher à son cœur.
Oui, c'est le lieu, ce château écossais, c'est le lieu traditionnel de la retraite estivale de la reine Elisabeth II et de sa famille. Et c'est vrai qu'elle a eu l'occasion d'y passer des heures peut-être un petit peu moins occupées que les moments qu'elle pouvait passer à Londres ou à Windsor. On a souvent vu, au moment du jubilé notamment, des images de ses pique-niques qu'elle pouvait faire avec son mari ou avec la famille royale d'ailleurs un peu plus élargie, où ils avaient l'occasion d'être vraiment perdus au milieu de la lande écossaise, en train de faire cuire leurs saucisses au barbecue et de bénéficier d'un peu plus de calme et d'intimité que d'habitude. Donc c'est un lieu qui est très important pour elle et on se souvient aussi qu'elle avait eu, elle avait éprouvé le besoin d'y retourner justement quelques jours avant les célébrations de son jubilé pour s'y ressourcer. C'est un lieu vraiment très important.
Merci beaucoup Pauline Sommelet. On vous retrouvera après le journal pour parler du nouveau roi de Charles III et de tous les défis qui l'attendent.
Et dans tout le Royaume-Uni, c'est comme si le temps était suspendu depuis l'annonce hier du décès de la reine.
Oui, les Britanniques se succèdent depuis devant le palais de Buckingham, fleurs à la main pour lui rendre hommage, se recueillir. Et vous êtes au milieu d'eux, Vincent Serrano.
Oui, malgré la pluie, toujours ces centaines, voire ces milliers de personnes qui s'apprêtent de venir ici. Une foule silencieuse, impressionnante, qui laisse derrière elle depuis hier soir un parterre de fleurs à certains endroits de 2 mètres de hauteur. Et les Anglais ne cherchent pas à cacher leurs larmes. Enfin, quelques secondes pour William avant d'abandonner.
Elle était le chef de toutes nos familles. On savait qu'elle partirait un jour. Mais en ces temps difficiles, c'est trop dur. C'était notre mère à tous. Elle me guidait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On espère que ses enfants vont la rendre fière, lui faire honneur. Je dois vous laisser.
Pour vous dire, ce sont maintenant des policiers qui sont chargés de déposer les bouquets pour éloigner la foule. Une foule qui attend maintenant, fébrile, le long des routes, l'arrivée de leur nouveau roi.
Ce que nous espérons, c'est qu'il continue sur le chemin de sa mère. Et cela sera très dur pour lui, parce qu'elle était si exceptionnelle. Et les gens ont des sentiments mélangés pour son fils Charles, qui fera un formidable souverain si, comme sa mère, il reste dans la retenue.
Voilà, ça c'est la vie de Ramin que je viens de croiser, de rencontrer devant Buckingham Palace il y a quelques minutes et qui résume parfaitement la pensée des Anglais. On a confiance en lui, sa mère a fait tellement de choses et elle l'a tellement entraîné pour cette tâche. Mais la nation pleure, il doit nous réconforter.
Merci beaucoup Vincent Serrano en direct de Buckingham Palace à Londres pour RTL.
La famille justement à présent qui paraît éclatée au moment où le pays lui s'unit pour rendre hommage à sa reine.
Et ça a marqué les esprits. Harry, le petit-fils de la reine, n'était pas arrivé à Balmoral au moment où le décès d'Elisabeth II a été annoncé. Et il est déjà reparti, Marie Billon.
Oui, effectivement, il semblerait que le prince Harry soit arrivé trop tard hier pour que le communiqué soit diffusé en sa présence. Il devait arriver plus tôt, mais son avion a eu du retard. Il est donc possible qu'il ait embarqué dans cet avion en sachant déjà que sa grand-mère était décédée, mais que l'accord était qu'il ne soit publié ce communiqué que quand il aurait touché terre dans son avion. Mais ce retard aurait effectivement tout changé. Et aujourd'hui, ce matin, il a été le premier effectivement à quitter Balmoral. Alors il se dit que le prince William veut éviter le plus possible de parler à son petit frère, parce que son petit frère, le prince Henri, est en train d'écrire des mémoires et le prince William aurait peur que tout ce qui se dit pourrait se retrouver dans ce livre. Donc il est possible que malgré les circonstances, les relations aient été spécialement tendues sur place et le prince Harry ne s'est peut-être pas senti très vraiment le bienvenu. Il est en tout cas retourné à Londres où l'attend son épouse Meghan.
Merci beaucoup Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
Emmanuel Macron s'est adressé en anglais au peuple britannique.
Une vidéo, oui, publiée en fin de matinée avant d'aller présenter ses condoléances à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris.
Aujourd'hui, nous sommes tellement tristes.
C'est avec beaucoup de tristesse que le peuple français a appris la mort de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Sa sagesse et son empathie nous ont aidés à tracer une voie au milieu des aléas de l'histoire des 70 dernières années. Sa mort laisse en nous un sentiment de vide. Nous avons apprécié son affection toute particulière pour la France. Elisabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture et touchait nos cœurs. Pour vous, c'était votre reine. Pour nous, c'était la reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous.
Nous sommes avec vous.
Pour nous, c'était la reine. Voilà pour les mots d'Emmanuel Macron et du monde entier. Les réactions continuent d'affluer. L'empereur du Japon salue les nombreuses réalisations et contributions d'Elisabeth II. La reine du Danemark, elle, a décidé d'annuler une grande partie de son jubilé prévu ce week-end.
RTL Midi. Tout à fait autre chose, et on en a parlé dans la première partie de cette édition. Près de 40 blessés. L'image du football a encore été entachée hier à Nice après de violents affrontements en tribune.
Oui, juste avant le coup d'envoi de la rencontre entre le club niçois et Cologne, rencontre de Ligue Europe Conférence, des centaines de fans cagoulés aux couleurs du club de Cologne ont quitté leur tribune pour en découdre avec les Niçois. À l'arrivée, 39 blessés, dont plusieurs policiers. Pour le maire de la ville, Christian Estrosi, il est temps de sévir davantage contre ces supporters violents.
Rappeler l'exigence une fois de plus que les gouvernements européens se mettent d'accord avec les institutions sportives pour qu'on mette un terme à ces déplacements de hooligans et de barbares qui accompagnent leurs clubs qui n'y sont quelquefois pour rien, avec les conséquences que ça a sur nos villes, parce que sans ça les maires finiront par arrêter d'investir sur de grandes infrastructures, ne participeront plus au désir de faire vivre le sport dans des dimensions internationales comme celle-là. Nos populations n'ont pas à subir les conséquences de gens qui, dans leurs déplacements, veulent tout saccager. Je demande au club de Cologne, naturellement, d'indemniser la ville pour les dégâts qui ont été occasionnés, qui se chiffrent par plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Christian Estrosi au micro RTL de Michael Lefebvre.
Et alors que le monde a les yeux tournés vers le Royaume-Uni, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive et regagne du terrain.
Et notamment dans l'Est, dans la région de Kharkiv, où les troupes russes semblent avoir beaucoup reculé, Émilie Beaujard.
Et oui, avec une prise ukrainienne de poids ces dernières heures, la ville de Balaklia, près de Kharkiv, 27 000 habitants, on en parlait justement hier, eh bien, cette ville a été libérée par les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ont fait une percée de 50 km à l'intérieur du front russe. Kiev revendique la reprise d'une vingtaine de localités dans cette zone à l'est. À Kherson, au sud de l'Ukraine, là aussi la contre-offensive se poursuit, mais elle est plus lente, car là-bas les positions de défense russes sont plus solides. En revanche, le ravitaillement russe va bientôt poser problème, car les Ukrainiens ont détruit tous les ponts. Ce qui se joue ici pour les Ukrainiens, c'est reprendre et garder l'initiative, galvaniser le moral des troupes. Du côté russe, ce qui surprend, c'est la faible réaction. On voit des soldats refuser le combat, fuir en abandonnant derrière eux leurs véhicules et munitions.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL, merci. La météo, on vous retrouve Céline Dacosta, on a beaucoup insisté sur la pluie, mais il y a quand même du soleil par endroit.
Oui, il brille même largement près de la Méditerranée. C'était le cas ce matin. Ça continue cet après-midi en Corse aussi. On va en retrouver du soleil aussi, mais de façon plus modérée sur l'ouest du pays sous forme de larges éclaircies. Pour les autres, ce sera une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses, un petit peu comme ces derniers jours. Averses qui seront plus fréquentes que sur le reste du pays et parfois encore orageuses entre le nord de la région parisienne, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté. Ça sera ce soir. On rajoute à tout ça un vent bien présent sur quasiment tout le pays. Ça souffle un petit peu moins dans le sud-ouest. Les températures chaudes près de la Méditerranée, 27 à 32 degrés, 12 pour la moitié sud, 22 à 27, en légère baisse pour la moitié nord, 19 à 23 degrés.
Merci Céline.
Est-ce que Charles sera un bon roi? C'est notre question du jour. Qui est Charles qui aura tant patienté pour monter sur le trône? On en parle dans une seconde avec Pauline Sommelet du magazine Point de Vue que vous avez déjà entendu depuis le départ de cette édition. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
This afternoon it'll be cold, wet and windy across most of Scotland. We're under the influence of low pressure and this weather.
C'était il y a 10 ans, le prince Charles jouait les présentateurs météo sur la BBC. Peu de chance que le désormais roi Charles III recommence, lui qui est devenu hier, donc à la mort de sa reine Elisabeth II, le nouveau souverain qui a beaucoup à prouver. Pour en parler avec nous, Pauline Sommelet du magazine Point de Vue, rebonjour. On le sait, Charles III doit s'adresser ce soir à ses sujets. D'après les médias britanniques, ce serait à 19h heure française. Sa première prise de parole en tant que roi. Alors, il a été élevé pour endosser ce rôle un jour. Ça arrive maintenant, il a 73 ans. Qu'est-ce qu'on attend de lui exactement ?
On attend de lui qu'il fasse perdurer cette monarchie que sa mère a magnifiquement incarnée pendant plus de 70 ans, pendant 70 ans de règne. Et c'est vrai que c'est une tâche qui s'annonce pas forcément facile que de succéder à cette souveraine dont on vient de rappeler à quel point elle a marqué l'histoire du XXe siècle. Donc il va falloir qu'il trouve ses marques, mais en même temps, on peut dire qu'il a eu le temps de s'y préparer.
Il y a une interrogation sur sa personnalité, parfois un personnage un peu falot, on dit qu'il n'est pas forcément l'homme le plus intelligent du monde. Et sa mère avait été très dure dans une interview il y a quelques années, elle avait dit, je crois à la télévision, il ne sera jamais fait pour régner.
C'est pas sa mère qui a dit ça, c'est son ex-femme qui avait dit, la princesse Diana, qui avait dit qu'il n'avait pas forcément l'étoffe pour être roi. Moi, je le qualifierais pas de falot. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le roi Charles va devoir trouver une autre manière de faire que le prince Charles, qu'on a connu parfois plutôt très engagé sur certaines questions.
C'est ça, contrairement à la reine qui s'est toujours attachée à être très neutre, lui, on connaissait ses convictions.
Voilà, de par sa personnalité et de par le sens qu'elle avait de sa fonction, la reine n'a jamais exprimé aucune opinion politique et c'est très important constitutionnellement. Le prince Charles, en revanche, ne s'est pas caché de certaines prises de position, parfois plus ou moins polémiques sur les médecines douces, par exemple. Il s'est engagé contre les OGM. Il a été, en revanche, et ça c'est plutôt un atout à mon sens, pionnier dans la défense de l'environnement.
Le prince des patates. C'est un de ses surnoms, vous souriez, mais j'ai entendu ça ces dernières heures.
Eh bien, écoutez, je pense qu'en 2022, c'est très important d'être peut-être le roi des patates, ou en tout cas de savoir continuer à défendre ces thématiques d'une autre manière, puisque, encore une fois, il aura beaucoup moins de latitude pour le faire. Et je crois que le gouvernement britannique l'attendra un peu au tournant sur ce sens de la réserve qu'il devra maintenant désormais avoir.
Bon, il n'est pas très populaire, en tout cas, il est moins populaire que William.
Il est moins populaire que William parce qu'il est plus âgé, parce qu'il a une histoire tourmentée et longue avec l'opinion britannique. Mais il a quand même aussi regagné en popularité ces dernières années, et notamment depuis son mariage avec Camilla. Je crois qu'en 2005, il a épousé Camilla, qui était en fait la véritable femme de sa vie. Et il y a une page qui s'est tournée aussi dans ses relations avec les Britanniques à ce moment-là, parce qu'il avait tout simplement besoin... comme sa mère, d'avoir à ses côtés la personne qu'il aime.
Le rock dont parlait souvent Elisabeth II. On parlait de la popularité de Charles III. Peut-être que cette première mission qui lui incombe maintenant, aller faire une tournée de ces sujets, ça peut l'aider aussi à gagner quelques points ?
Ça va l'aider, il est rompu à l'exercice. Je crois que les Britanniques, la première tournée, elle va aussi avoir pour vocation de réconforter les Anglais qui sont quand même très touchés par le décès de la souveraine.
Pas seulement les Anglais d'ailleurs.
Et le Royaume-Uni dans son ensemble. Et aussi, lui, finalement, il perd aussi sa mère, on l'oublie souvent, mais être roi, être prince puis être roi, c'est ça, c'est quand même accéder au trône et à la mission pour laquelle on est né, le jour où on perd son père ou sa mère, et en l'occurrence quelqu'un qui a été particulièrement marquant. Donc c'est vrai qu'on peut en attendre un vrai moment de communion avec le public.
On parlait de reine d'Angleterre, on parlera de roi d'Angleterre, alors que c'est juridiquement obsolète puisque la fin du royaume d'Angleterre a été prononcée en 1707. En fait, il sera roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, donc l'Écosse est dedans, et j'ai vu qu'il y avait déjà eu un Charles III en Écosse.
Alors ça, je vous avoue ma connaissance historique ne va pas jusque-là.
Donc, pour les
Écossais... Le dernier roi d'Écosse
Je ne sais pas si c'est le dernier, mais il y a eu un Charles Stuart qui était Charles III au XVIIIe siècle et qui a régné donc, sur l'Écosse. Donc,
ce qui est sûr, c'est que Charles I et Charles II n'ont pas eu des destins très faciles. Ça, c'est... Et le premier, d'ailleurs...
C'est pas un prénom qui a porté chance.
Non, mais en même temps...
On imaginait même qu'il puisse s'appeler Georges à cause de cela.
Oui, mais je crois qu'il a en même temps la sagesse de conserver ce prénom avec lequel les citoyens le connaissent depuis 73 ans. C'était un petit peu difficile de changer, donc je pense que le règne de Charles III peut au contraire lui porter chance.
Eh bien, merci. Alors, vous allez rester évidemment avec nous, Pauline, et on pourra échanger avec les auditeurs tout à l'heure. Mais dans un instant, LVT Midi, on va parler de la reine qui est star du ciné. On se souvient notamment avec James Bond et Daniel Craig en 2012, cette séquence qui avait été extraordinaire. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes à minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Laissez-vous tenter midi, effectivement, la culture qui se met à table tous les jours et aujourd'hui, forcément, culture royale.
Avec vous, Stéphane Boutsock et Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes venus nous parler, évidemment, de la reine Elisabeth II, star du petit et du grand écran. Mmh. On commence d'ailleurs avec le grand... Avec vous, Stéphane, puisque la reine a été un personnage de cinéma récurrent.
Oui, alors vous savez, l'histoire d'Elisabeth II avec le cinéma a souvent été mouvementée dans « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» en 88 et dans « Austin Powers Goldmember » en 2002. Elle est carrément menacée de mort. Notez d'ailleurs que c'est la même actrice qui s'appelle Janet Charles qui joue son rôle. Elle est toujours vivante. Elle a 94 ans aujourd'hui, cette dame. Dans « Johnny English, le retour » en 2011, Sa Majesté est carrément prise pour une tueuse et copieusement tabassée à coups de plateau en argent. C'est l'acteur qui joue Mr Bean, oui. Qui joue ce faux et ce très mauvais agent secret. Alors on peut aussi ajouter des films d'animation comme Royal Corgi, où ses célèbres chiens lui volent la vedette, ou encore Les Mignons, et oui, dans lequel elle défend bec et ongles les joyaux de sa couronne. Alors ça c'est pour le volet parodique du règne de Sa Majesté sur grand écran. On va plutôt retenir le film The Queen de Stephen Frears, sorti en 2006, qui revient sur les heures sombres de la monarchie britannique après la mort de Diana et montre aussi l'humour de la souveraine, écoutée notamment face à son nouveau Premier ministre, Tony Blair.
Votre Majesté, mon parti ayant remporté l'élection, je vous demande l'autorisation de former un gouvernement.
Non, Monsieur Blair, c'est moi qui pose la question. Si vous acceptez la coutume et de dire oui,
Pardon, oui.
Hélène Mirren, qui incarne Elisabeth II dans le film, recevra un Oscar pour sa performance. Tiens, Oscar encore, mais pour Colin Firth cette fois, qui joue le rôle de George VI, le père d'Elisabeth, dans Le discours d'un roi. La future reine y apparaît enfant, félicitant son royal daddy après sa fameuse allocution sur l'entrée en guerre de l'Angleterre contre l'Allemagne en septembre 1939.
Comment était votre père, Elisabeth ?
Hésitant au début, père, mais ensuite vous étiez bien meilleur.
Dieu vous bénisse.
Alors, je vous parlais d'Oscar. La véritable reine n'a pas reçu de récompense, elle qui s'est pourtant illustrée à deux reprises à l'écran, aux côtés de vraies stars de cinéma, en 2012 évidemment, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, séquence dirigée par Danny Boyle, un vrai court-métrage. Elle donne la réplique à Daniel Craig, le plus célèbre de ses agents secrets.
Good evening, Mr. Your Majesty.
Et puis il y a 7 mois, on s'en souvient aussi, pour le jubilé de ses 70 ans de règne, eh bien, Elisabeth II s'offrait une coupe de thé, une tasse de thé et des tartines à la confiture, me semble-t-il, avec Lord Paddington. La marmelade, bien sûr.
Et puis il y a la télé.
Exactement, il y a la télévision, dont la reine était d'ailleurs très friande. Elle l'a d'ailleurs largement utilisée pour communiquer pendant son règne, Laurent Marcy.
Oui, mais dès son couronnement en 1953, c'est elle et son mari Philippe qui imposent une retransmission télé. La reine va récidiver en 57 avec un message de Noël télévisé. C'était une première, c'était radiodiffusé à l'époque, juste avant. Elle adorait les séries policières comme Inspecteur Barnaby, mais par contre, elle n'aimait pas trop la plus connue des séries, The Crown, diffusée depuis 2016 sur la plateforme Netflix, loin de la réalité selon la famille royale. Trois actrices pour incarner la reine au fil du temps, ça suit sa vie. La première, Claire Foy.
Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs, loin de la cour, loin du regard de tous, dans l'anonymat. Une vie toute simple, une vie heureuse.
Puis viendra Olivia Colman, la reine devient plus mature, plus dure aussi. On attend à l'automne de voir Imelda Staunton dans la saison 5 et la saison 6, la dernière dont le tournage a été suspendu hier soir. Mais c'est évidemment côté anglais que la reine est le plus de fois apparue dans des séries télé. Alors des séries qui n'ont pas traversé, pour le coup, qui ne sont pas arrivées chez nous, avec une actrice peu connue du public français, elle s'appelle Janet Charles. Elle a aujourd'hui 94 ans, elle a incarné la reine d'Angleterre pendant 50 ans dans pas moins de 21 séries télé et publicités, tout simplement. Parce qu'elle était son sosie.
Alors ça, c'est pour les séries télé, Laurent, mais il y a aussi les dessins animés.
Bah ouais, parce que la reine a aussi volé la vedette à des personnages de séries animées. On la voit ainsi sautant dans des flaques de boue dans Peppa Pig.
Now for the party, to the gong, oui.
Mais son record d'apparition, c'est dans la série Les Simpsons, pas moins d'une douzaine de fois, notamment.
J'ai connu des heures difficiles dans ma vie. J'ai vu mon pays ravagé par des bombes, ma famille déchirée par une tragédie. Et enfin, alors que j'allais tranquillement dans un magasin acheter de l'eau de Javel, j'ai été percuté de plein fouet par cette infâme grosse brute.
Ah, elle est bonne. Merci à tous les deux. Dans The Crown, il y a encore des épisodes inédits. Nous sommes d'accord,
il y a une dernière saison. Deux saisons. La cinquième arrive là, à l'automne, et la sixième est en tournage.
Et il y aura trois actrices différentes.
Bien sûr, parce que ça suit sa vie, donc on commence jeune et on termine. T'as pas plus âgé.
Bien évidemment. Bah écoutez, merci à vous. Pauline Sommelet va rester avec nous. Vous allez pouvoir l'interroger, puisque dans quelques instants, vous prenez la parole pour poser des questions, pour témoigner, pour raconter comment vous vivez ce décès. C'était un peu notre reine de France également, Elisabeth II. À tout de suite.
RTL Midi,
Céline Landreau et Pascal Praud.